bonjour. Et voilà contre-histoire.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde. Alors, un autre 8 mai, et ce 8 mai se déroulait à Sétif, en Algérie. 8 mai 45. La guerre d'Algérie a commencé à Sétif. Alors, je vais vous raconter cette histoire à partir de l'article de Mohamed Harbi, qui est paru dans Le Monde diplomatique du mois de mai 2005, et aussi à partir des recherches de l'historienne Anne-Rey Godziger, qui s'appelle « Aux origines de la guerre d'Algérie » et qui a été présentée à la découverte par Maurice Gentil. Voilà. Alors ça, c'est Azad Lab, vous l'avez reconnu, pour nous donner du courage avant d'aborder la suite.
Elephant step, ou la marche de l'éléphant, we need a real break. Pour construire nos défenses, mon avenir j'appréhende. Check, what is at stake, notre liberté et celle de nos enfants, trop de choses nous envahissent. Le business à haute cote, moi j'invalide. Close your eyes, I come to make you feel what is wrong, what is real. This song is about a free living. Je revendique la notion d'équilibre. Trop de choses nous envahissent, un jour nos gosses prendront la fuite. And since we are lost, we are weak. flee to the cross leaves to believe in a nouveau système. Politique sont mes textes, anonymes sont mes excès. Moraliste je suis, je compte le reste. Et quitte à vous vexer, la vérité je valorise en dépit de ce qui vous plaît. Voilà, bêtise des fonds, à condamner l'avenir des fonds. Et ce, depuis tant d'années, il faut vivre le sun, money is the rain. Said like an elephant alone, je ne veux pas que Babylone de moi se souvienne. Elephant step, ou la marche de l'éléphant, utilisons nos échelles pour construire nos défenses.
Alors le 8 mai 45, pendant que la France fêtait la victoire, eh ben son armée massacrait des dizaines de milliers d'Algériens à Sétif, à Guelma et à Réata. Ce traumatisme va radicaliser irréversiblement le mouvement national algérien. Alors sous l'euphémisme d'événements ou de troubles, les massacres du 8 mai 45 à Sétif, Guelma et Herata sont considérés maintenant comme le début de la guerre d'indépendance. Maintenant, les grandes catastrophes politiques ne sont pas le fait de générations spontanées. Hein. On avait vu ça en étudiant l'histoire de l'Arménie. La colonisation violente de l'Algérie avait toujours été en butte à l'opposition, déclarée ou non, des populations locales. Les gouvernements successifs, métropolitains ou locaux, ont toujours élaboré des techniques, disons, adaptées pour étouffer cette opposition. Alors ça commence en 1870. Le décret Crémieux avait donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie, et à eux seuls, pour les diviser d'avec les musulmans. Dans l'absence de toute logique, puisque les Juifs étaient installés en Algérie déjà avant le VIe siècle, qui est la date de naissance de la religion musulmane. Alors ce statut, bien sûr, va leur donner des avantages qui vont les opposer aux musulmans, leurs compatriotes de toujours, et c'est bien ce que cherchait la République française. Alors la défaite de la France en 40 a modifié le rapport entre les colons et les nationalistes algériens. Le monde colonial, qui s'était senti menacé par le Front populaire, a accueilli avec enthousiasme le péténisme et le sort qui allait avec, fait aux juifs, aux francs-maçons et aux communistes. Les lois de Vichy ont interdit le commerce et l'accès aux administrations aux juifs et ont plongé cette communauté dans de grandes difficultés, en annulant les privilèges du décret Crémieux. Cette marginalisation des juifs a laissé le champ libre aux musulmans pour développer leur esprit d'entreprise dans le commerce, dans l'agriculture ou dans les industries qui étaient maintenant abandonnées. Leur succès éclatant leur donna de l'assurance, excita la jalousie des Européens qui ont vu là la fin de leur supériorité revendiquée. Et le but était atteint, les trois communautés se trouvaient donc isolées et opposées. Avec le débarquement américain, les nationalistes algériens prennent au mot l'idéologie anticolonialiste de la Charte de l'Atlantique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'était déjà intéressant. Ça n'a pas eu une très très grande audience, quoique, mais ça a quand même été prononcé. Charte de l'Atlantique, qui date du 12 août 1942 et qui disait notamment « Le président des États-Unis et M. Churchill, premier ministre, représentant le gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, s'étant réunis, croient devoir faire connaître certains principes communs de la politique nationale de leurs pays respectifs sur lesquels ils fondent leur espoir d'un avenir meilleur pour le monde. Et entre autres, ils respectent le droit qu'ont tous les peuples de choisir leur forme de gouvernement et désirent voir restituer leurs droits souverains à ceux qui en ont été privés par la force. » Je répète, ça vaut la peine. Donc le président des États-Unis et Churchill le premier ministre, etc., respectent le droit qu'ont tous les peuples de choisir leur forme de gouvernement et désirent voir restituer leurs droits souverains à ceux qui en ont été privés par la force. Le Parti communiste algérien et les Amis de la démocratie, qui ont été des soutiens inconditionnels à l'effort de guerre allié, s'opposent à ceux comme Messali Hadj, dont on va beaucoup parler, qui était le chef du Parti du Peuple Algérien, le PPA, qui refuse déjà de sacrifier les intérêts de l'Algérie colonisée à la lutte antifasciste. Et viennent se joindre à eux le très modéré et prestigieux Ferhat Abbas, le pharmacien de Sétif, qui se prononce, lui, pour une république autonome fédérée à la République française rénovée, anticoloniale et anti-impérialiste, sans rien renier de sa culture française. Mais avant ça, Ferhat Abbas avait envoyé au gouvernement de Pétain des mémorandums. Alors, mémorandum, mémorandi, mémorando, hein, vous faites comme vous voulez. Restez sans réponse. Il transmet alors aux Américains le manifeste du peuple algérien, qui est un texte signé par 28 élus le 10 février 1943, avec le soutien du Parti du peuple algérien et des oulémas qui sont, comme on sait, des religieux de grande influence. Et l'histoire s'accélère.
Être victime de racisme, c'est en quelque sorte comme subir un séisme des racines, non? Je vous dis cela parce qu'adolescent, je n'avais pas vraiment l'esprit en paix empli d'aplomb. En effet, j'ai longtemps pensé à tort que ma double culture ainsi que la faiblesse de mon ossature étaient une véritable tare. Je m'explique. Je me souviens effectivement d'un de ces fameux soirs où de tendres et fines particules d'air flottaient en suspens entre les vestiges d'un ancien hiver et le renouveau d'un printemps. De frêles pellicules d'eau se miroitaient alors sur le sol crasseux, tandis que poisseux et assez paresseux par essence, je caressais par expérience les douloureuses affres de l'existence du pied. légèrement perdu, à l'angle de la 36e avenue, je marchais, quelque peu hagard au hasard des rues. Lorsque trois ostrogoths, planqués à l'angle d'une impasse, assez menaçants et apparemment aussi connus des services de police, ont soudainement fait surface. Voyant que ces férus de violence voulaient m'infliger quelques sérieux sévices, je n'ai pas vraiment fait preuve de politesse. J'ai balancé la première mitasse et me suis esquivé, fissa. Faut dire aussi qu'ils étaient trois. Je me suis donc retrouvé en pleine nuit, la lèvre en sang, courant au beau milieu d'un square. Quand à bout de souffle, je suis allé m'asseoir sur une balançoire, en tailleur, en sueur, sous le vent qui soulevait sévèrement diverses salves de sable. Et sous la cime des arbres, je me suis planqué quelque chose comme des heures, désormais désarmé, en plein désert, empli du désir d'échapper au désarroi, car ce soir-là, tout ceci me paraissait tellement impossible, voire impensable, que je suis resté impassible, seul assis dans le sable. Mais ouh, soulagé, en voyant que ces ferrets de violence avaient enfin lâché leur cible. Mais, suite à cet épisode-ci, et avec ma grébin comme littéralement inscrit sur ma gueule, je me suis par la suite souvent baladé avec un laguiole dans la poche de mon blouson. Ceci pour pallier à d'éventuels bastons. Mais était-ce vraiment cela la solution? Lassé en fin de compte de toute cette violence ainsi que de cette époque assez apocalyptique et opaque, ma nouvelle optique consistait à présent à tenir un discours suffisamment sage et consistant, conscient dès lors que devant certains cons, cérébralement silents, il fallait en quelque sorte savoir se montrer très con, silent. Et depuis ce cas pas si lointain, j'ai une certaine capacité à gérer la colère. Alors, lorsque celle-ci racole, il est clair qu'avec elle, je ne perds plus mon temps. Je la tempère. Et tant pis pour ceux qui s'en emparent, car pour ma part, partant du principe que le savoir s'avère servir, c'est aujourd'hui véritablement que je savoure le fait de ne pas avoir sévèrement fini sur une civière. Alors, si ces vers peuvent servir, franchement, j'en serais fier. J'ai ainsi appris à mes dépens que la violence n'est pas une arme, car celle-ci n'engendre au final qu'une vie au lance-flammes. Et depuis que je pense à cette maxime, chaque soir je m'endors ainsi, le cœur et l'esprit enfin assainis et sereins. Si bien qu'aujourd'hui, ma philosophie de vie se résume à ces quatre phrases-ci. Que se tasse, que se taise, les sottises qui se tissent, qui se disent. Et que la sagesse agisse comme une sève qui assagisse assez. Car c'est bien parce que la double culture est une richesse que la posséder semble véritablement être une chance, carence qui me concerne. Je garde toujours à l'esprit que mes racines sont les rares signes qui renseignent sur mon origine, là où en théorie mon orgie. C'est pour cette raison, l'occurrence, que je m'exerce à ne cultiver ni l'orance ni la haine, pour que plus jamais l'ignorance ne saigne, et que la tolérance peu à peu soigne, car en fin de compte, ce qui est véritablement important, ce n'est pas la réelle origine des gènes, mais bien l'originalité des gens.
De Gaulle n'a pas compris l'authenticité des poussées nationalistes dans les colonies. Le discours de Brazzaville, le 30 janvier 1944, n'annonce pas de politique d'émancipation ni d'autonomie, même interne, avec l'ordonnance du 7 mars 1944 qui accorde la citoyenneté française à 65 000 personnes environ et qui porte à 2/5 la proportion des Algériens dans les assemblées locales. Cite Pierre Mendès France. Excusez du peu. C'est trop peu et c'est trop tard. Ces mini-réformes ne touchent ni à la domination française, ni à la prépondérance des colons. C'est toujours la France qui accorde des droits, en prenant soin, bien sûr, toujours, de diviser pour régner.
J'ai du respect pour les gens, quels qu'ils soient, qui lisent la Bible, le Coran, la Torah. L'égalité, c'est peut-être aussi ça. Une main de Fatma, une étoile, une croix. Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie? Sommes-nous tous pas des enfants de colonie, qu'elles soient de vacances ou de la mère patrie?
Merci Redan. De vraies discussions avec les nationalistes s'imposent. Mais Paris ne les considère pas comme des interlocuteurs, les nationalistes. Alors riposte, le 14 mars 1944, Messali Hadj, pour les indépendantistes du Parti populaire algérien, Cheikh Bachir El Ibrahimi pour les oulémas et Ferhat Abbas pour les autonomistes, réalisent l'unité des nationalistes avec le nouveau mouvement qui va s'appeler les Amis du Manifeste et de la Liberté, les AML. Ces militants tendent à délégitimer le pouvoir colonial. La jeunesse urbaine les suit, les signes de désobéissance se multiplient. La colonie européenne s'inquiète. En mai 1945, congrès des Amis du Manifeste. Les élites du Parti du Peuple Algérien sont leaders. La majorité opte pour prôner un État séparé de la France, uni aux autres pays du Maghreb, et proclame Messali Hadj leader incontesté du peuple algérien. L'administration, affolée, fait pression sur le modéré Ferhat Abbas. Dans le camp colonial, on craint de se voir rejeté à la mer, et à l'instigation de Pierre-René Gazagne, haut fonctionnaire du gouvernement général, un complot s'élabore pour en finir avec les Amis du Manifeste et le Parti du Peuple Algérien. Messali Hadj, qui était déjà assigné à résidence, est enlevé et est déporté à Brazzaville le 25 avril 1945, histoire de ne pas pouvoir être joint par les militants facilement. Et tout ça prépare le terrain. Le Parti du Peuple Algérien est exaspéré par ce coup de force contre son leader et fait de la libération de Messali Hadj l'objectif majeur. Il décide de défiler à part le 1er mai avec ses propres mots d'ordre que ceux de la CGT et des partis communistes français et algériens sont restés muets sur la question nationale algérienne. Les mots d'ordre inscrits sur les pancartes furent « Libérer Messali, Algérie libre et indépendante ». Alors ces slogans ont été jugés séditieux selon les autorités donc coloniales et pouvaient entraîner la mort sur le champ. À Alger, dès le matin, un important barrage policier fut dressé pour juguler la procession des manifestants. Et dès l'apparition du drapeau algérien, la police n'hésite pas à déclencher les hostilités. La police et les Européens se sont mis à tirer sur le cortège nationaliste. Alors, Henri Alleg a écrit la question. C'est un petit livret, mais plein de choses terribles. La question, vous savez bien, c'est une torture du Moyen-Âge. Et Henri Alleg a rappelé, puisqu'il en avait des souvenirs concrets, Henri Alleg a rappelé dans la question ce que c'était que la méthode du renseignement en Algérie sous la colonisation. Alors donc, Henri Alleg a conclu. Il y avait eu 4 morts et 7 autres qui ne survivront que quelques jours à Alger. L'autre ville à avoir connu le cauchemar ce jour-là fut Oran. L'intervention de la police provoqua une bagarre énorme. Bilan de la journée, 1 mort et plusieurs blessés du côté des manifestants à Oran et 11 finalement à Alger. Mais la mobilisation continue. Le 8 mai, le nord constantinois, qui est délimité par les villes de Bougie, de Sétif, Beaune et Soukaras, quadrillé par l'armée, ce nord constantinois s'apprête à l'appel des Amis du Manifeste et du Parti du Peuple Algérien à célébrer la victoire des Alliés. Logique, les consignes sont claires. Rappeler à la France, par des manifestations pacifiques, les revendications nationalistes. Aucun ordre n'a été donné en vue d'une insurrection, ce qui explique que les événements, comme on dit, se sont limités à Sétif, Guelma et Errata. Ça fait un rayon de 150 ou 200 kilomètres.
Il s'apprêtait à flotter ou presque. C'était une de ces journées opaques et je m'en souviens parce qu'à l'époque, je venais, comment dire, de littéralement me faire éjecter de cour. Et j'avais, comme qui dirait, un besoin urgent de mettre certaines de mes idées noires au clair. Notamment après une austère, voire sordide leçon d'histoire. Tenez, D'ailleurs, écoutez, ça, c'est à cet ordre. En fait, le patré fut prof, remplaçant ceci dit en passant, pensait sans doute nous distraire en abordant le, je cite, fameux mythe du bon colonisateur. Mais perso, ce qui profondément m'irrite, c'est lorsqu'un pseudo-enseignant, entre autres, m'explique que si aujourd'hui l'Afrique est percluse d'affres, voire de saignements, c'est parce que dans le fond, la France n'est pas allée au bout de son enseignement. Ces paroles avaient été prononcées avec une telle ferveur que la seule phrase que j'avais envie de rétorquer avant de prendre la porte, c'était « Va te faire voir ». Et c'est dingue, ce qui me sidère, c'est que personne n'est encore, pour ainsi dire, osé parler des déboires de la colonisation. Parce que ce que je pense dans le fond, c'est que c'est comme lorsqu'il s'agit de boire de l'alcool. Après, ce qu'on préfère, c'est nier les actions. Et si je vous parle de cet incident, de façon si insistante, c'est que j'avais réellement le sentiment, ceci dit, de m'être fait incendier. Et c'est peu dire, car peu de temps après avoir quitté le cours, alors que je marchais sur l'avenue, légèrement vanné, à contresens des pantins, je sentis une pluie battante s'abattre. Je n'avais qu'une hâte en voyant la sale teinte du temps, c'était faire une halte quelques instants dans le café d'en face, pour reprendre des forces. En entrant dans ce bar, j'entendais un homme probablement déjà plein de bière accoudé au comptoir, conter aux quelques personnes présentes une de ces pesantes histoires de retour en charter. Alors sans trop réfléchir, je sortis une de ces vieilles feuilles rêches qui traînaient sans doute depuis la veille dans le fond de ma poche. Pour au départ, y déposer avec tact deux trois syntaxes qui peu à peu donnèrent naissance à ce texte-ci. À tous ceux qui ressassent sans cesse tout un tas de récits miteux tels que le fumeux mythe des races, je préconise de relever un défi assez féroce, à savoir celui de la différence. Car mon souhait à ce jour n'est pas tant de servir d'étendard, simplement si je passe autant d'heures à écrire, à y croire, c'est surtout pour entendre dire, non sans saveur, que tout être humain sur cette terre peut être détenteur d'un certain savoir. Car inutile de se leurrer, c'est unanime, rien n'a plus de valeur que le respect de la personne humaine. Et c'est ainsi que j'abandonnais cette feuille criblée d'encre sur le rebord du comptoir pour me décider, une fois apaisé, à ressortir du bar. La pluie avait en effet fini par cesser de baver sur les trottoirs.
La Deuxième Guerre mondiale a suscité l'espoir du renversement de l'ordre colonial. Les nationalistes, partis du peuple algérien en tête, cherchent à hâter les événements. Alors on dénonce la misère et la corruption, tout permet de mobiliser. Chez les Européens, une peur réelle succède à l'angoisse diffuse. L'égalité avec les Algériens leur reste insupportable. Même la pâle menace de l'ordonnance du 7 mars 44 qui proposait 2/5 de représentants en Algérie issus du peuple algérien et 65 000 citoyens devenus français automatiquement, même cette ordonnance du 7 mars les effraie. Leur seule réponse, c'est l'appel à la constitution de milices et à la répression. Ils trouvent une écoute chez Pierre-René Gazagne, le secrétaire du gouvernement général d'Algérie, chez le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, et le sous-préfet de Guelma, André Achari, qui s'assigne le but de crever l'abcès, comme on dit. Le 8 mai à Sétif, le cortège portait des banderoles réclamant la libération de Messali Hadj et le drapeau du Parti du peuple algérien. Le sous-préfet Achari donne l'ordre d'enlever les banderoles. Le commissaire Valère fait observer que le cortège comprend 8000 manifestants et que l'exécution des ordres entraînerait de la bagarre. Le sous-préfet répond « Eh bien, il y aura de la bagarre !» Le commissaire de police Olivieri, alors, se précipite sur les porteurs de banderoles et est repoussé de tous côtés. La bagarre, annoncée par Achari, a bien lieu. Saal Bouzid, le jeune porteur du drapeau, sera le premier mort à Sétif, où près de 14 000 suivront. Saal Bouzid, j'ai trouvé qu'il était un enfant de 9 ans. Et puis après, plus tard, j'ai trouvé qu'il avait 13 ans. J'ai trouvé aussi que c'était un jeune homme de 23 ans. Mais chaque fois qu'on parle du jeune porteur de drapeau à Sétif, chaque fois on dit que c'était un enfant. Je pense que on parlait d'un enfant parce qu'il devait pas être très grand, donc ça, effectivement, ça devait être un ado. La commission d'enquête a constaté que bon nombre de manifestations s'étaient déroulées en Algérie les 1er et 8 mai, qu'elles avaient tout un caractère politique, réclamant la libération de Messali Hadj et l'indépendance. À Sidi Bel Abbès en particulier, les banderoles portaient exactement les mêmes inscriptions qu'à Sétif. Mais la police était demeurée passive. Seule la manifestation de Sétif a tourné à l'émeute, pour ensuite gagner Guelma le lendemain. Alors, on parle très peu de Sétif encore, hein. Et presque seulement depuis le film Hors la loi, qui n'en a pas dit grand-chose pourtant, mais qui a entraîné des réactions très significatives de l'état de la conscience politique française. Par contre, on ne parle pas du tout de Guelma. Et pour cause, plus de 30 000 morts, dans des conditions épouvantables. Le carnage durant jusqu'à la fin juin. À Guelma, la répression mise en marche par les pouvoirs publics et l'armée gagna les communautés dans une violence généralisée et un rapport de force complètement déséquilibré avec, s'il vous plaît, aviation et marine. La violence s'est étendue au monde rural, où on a assisté à une levée en masse des tribus. À Guelma, les arrestations et l'action des milices incitent à la vengeance contre les colons des environs. Les civils européens et la police se livrent à des exécutions massives et à des représailles collectives. Marcel Régui, qui est un Algérien de confession chrétienne, a raconté dans son livre « Les massacres de Guelma » comment l'armée a utilisé des camions pour transporter les manifestants dans des bennes qui ont été renversées depuis la route dans les gorges de Guelma. Pour empêcher toute enquête, la police rouvre les charniers et incinère les cadavres dans les fours à chaud d'Héliopolis. Le bilan des événements prête d'autant plus à contestation que le gouvernement français a mis un terme à la commission d'enquête présidée par le général Thubert et a accordé l'impunité aux tueurs. 102 morts européens, des dizaines de milliers de morts algériens. On s'accorde aujourd'hui sur un chiffre d'environ 45 000 entre Sétif, Guelma et Kerata. Les conséquences de la tragédie sont multiples. Le compromis tant recherché entre le peuple algérien et la colonie européenne apparaît désormais inaccessible.
Christophe Gatsou, bien sûr.
en France, les forces politiques issues de la résistance se laissent investir par le parti colonial. « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable », avait averti le général Duval, maître d'œuvre de la répression. Les activistes du Parti du peuple algérien imposent à leurs dirigeants la création d'une organisation paramilitaire à l'échelle nationale. Et le 1er novembre 1954, on les retrouvera à la tête d'un certain Front de Libération Nationale, FLN. La guerre d'Algérie a bel et bien commencé à Sétif, le 8 mai 1945.
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France. Pays des lumières, amnésie suicidaire. Ce qu'on fera pour le point qu'on a levé, de celui qu'on lèvera pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois.
Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes
Et voilà maintenant ce que l'on a raconté à la suite du rapport Tuber. La mission Tuber, le 19 mai, à la demande du ministre de l'Intérieur Tixier, de Gaulle a nommé le général de gendarmerie Tuber, résistant, membre depuis 1943 du comité central provisoire de la Ligue des droits de l'homme, avec René Cassin, Pierre Cotte, Félix Gouin, Henri Laugier, Le général de Gaulle a donc nommé Thubert membre de l'Assemblée consultative provisoire dans le but d'arrêter la répression en Algérie. En effet, à partir du 19 mai, les ordres du général Duval changèrent complètement de nature et la milice de Guelma fut dissoute. Mais pendant 6 jours, du 19 au 25 mai, la commission fit du surplace à Alger. Officiellement, on attendait l'un de ses membres retenu à Tlemcen. En fait, c'est bien Thubert qui était retenu à Alger. On ne le laissa partir pour Sétif que le 25 mai, quand tout était terminé. Et à peine arrivé à Sétif, on le rappelle à Alger le lendemain, le 26, sur ordre du gouvernement, par le gouverneur général Châtaignaud. C'est bien qu'il n'a pas pu se rendre à Guelma. De retour à Alger, Thubert ne fut pas reçu par Châtaignaud, mais par Gazagne. Circuler, y a rien à voir. Pourquoi le général Thubert n'a pas pu aller à Guelma? Alors, non seulement parce que le général de Gaulle voulait absolument sauver un représentant de la résistance en Algérie, à Chiari, l'un des organisateurs de la milice européenne, mais aussi parce qu'à Guelma, la répression menée par cette milice officiellement dissoute continuait toujours dans les faits. Elle continua jusqu'au 25 juin, jour où le ministre de l'Intérieur, Tixier, arriva à Guelma. Il y a encore eu 4 morts ce jour-là. Quand il est reparti, les meurtres ont cessé. En somme, on a promené Thubert. Et la nomination de la commission Thubert fut une menace que le gouvernement provisoire a agitée pour faire cesser la répression. Thubert a tenu à remettre un rapport sur la base des quelques faits qui lui ont été rapportés, expliquant les intentions qui auraient présidé à sa mission et exprimant quelques hypothèses. Son rapport est celui d'un honnête homme, au fait des réalités algériennes. Il sait bien qu'il a servi d'épouvantail. Mais il tient à prendre sa mission au sérieux en attirant notamment l'attention sur les causes profondes de cette crise et le caractère aveugle de la répression. Le rapport, bien entendu, fut oublié. Il ne fut pas diffusé non plus. De toute façon, après la révolte de Madagascar, dont on parlera, et une fois la guerre d'Indochine commencée, l'épisode du 8 mai 45 dans la région de Constantine n'intéressait plus personne. Thubert fut nommé maire d'Alger peu après et Gazagne a été élu à ce poste en 1948. Maintenant, quelques brefs souvenirs de personnalités qui ont traversé tout ça. Wari Boumediene a écrit « Ce jour-là, j'ai vieilli prématurément. L'adolescent que j'étais est devenu un homme. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre, les armes à la main, pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. » Et puis bien sûr, Kateb Yassine, écrivain et grandissime poète algérien, qui était alors lycéen à Sétif. C'est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais 20 ans. Le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs dizaines de milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. Il fut aussi un témoin oculaire des événements de Sétif et écrit « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n'avaient pas prévu de réaction. Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire. On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle. C'était un grand massacre. Et Albert Camus, dans son journal Combat, des 13 au 23 mai, demande qu'on applique aux Algériens les principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes. Il affirme qu'il y a crise et non de simples incidents, et que le peuple arabe existe, qu'il n'est pas inférieur sinon par les conditions où il se trouve et qu'on lui a faites.
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 à Contre-Histoire. Alors, après le piano baladeur de Marc Vella et le divin Doudouk, et après ces fortes paroles d'au-delà de la Méditerranée, nous allons continuer notre immersion dans les diplodocus, enfin les diplodocu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous allons voir un peu l'évolution de la conscience politique au sujet du 8 mai de Sétif. Alors, figurez-vous que le 19 avril 2015, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu à Sétif pour commémorer avant l'heure le 70e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Oui. Pour la première fois, devait être déclaré, à la parole viendra s'ajouter le geste. Traduction concrète de l'hommage de la France aux victimes et de la reconnaissance des souffrances infligées. Eh bien, vous voyez, ça finit par bouger quand même. Et, toujours dans le même diplodocu, nous avons un témoignage de Salah Gemrich, essayiste et romancier algérien, qui revient sur les massacres du 8 mai 45 et témoigne. Pour l'enfant de Guelma que je suis, le traitement de ses souffrances par la presse de l'époque ne s'explique pas par la seule raison d'État. Je me souviens, c'était peu après le cessez-le-feu, le lendemain de la disparition de Jean Amrouche le 16 avril 1962. On reparlera de Jean Amrouche. Je fis une découverte qui, longtemps, sera pour quelque chose dans ma suspicion irraisonnée à l'égard de la presse française. Oui, alors ça peut surprendre, mais ce matin, 7 mai 2016, j'ai entendu à la radio, sur France Culture, que la presse française était la 43e, enfin la liberté de la presse française était située comme la 43e dans l'échelle de la liberté mondiale de la presse par le réseau des Reporters sans frontières. Voilà, on est 43e, hein? Bon, eh bien, vive Canal Sud, le canard enchaîné et le diplo. Bon. C'était donc à Guelma, dans le 93 de l'époque, que fut le département français de Constantine, alors que j'aidais au rangement d'un local associatif jouxtant le domicile familial et connu pour avoir abrité des réunions clandestines des premiers chefs nationalistes, je tombais sur une pile de journaux. Le Monde, l'Aurore, la Croix, le Parisien libéré, l'Humanité, Libération. Alors évidemment, en 1945, c'était libération de la libération, hein, et pas celui de Jean-Paul Sartre, qui est rené en 73. Et témoignage chrétien, que je ramenais secrètement chez moi, avait le sentiment d'avoir mis la main sur un trésor de guerre. Dès ma première consultation de ces pages défraîchies, mon regard fut accroché par la une d'un numéro du Monde daté du 18 mai 1945 sous le titre « Malaise français », un article traitant de la répression qui s'était abattue sur Guelma, Sétif et Herata. Le texte se terminait par un « à suivre » qui mystérieusement restera sans suite. En marge de l'article, une main anonyme avait griffonné une phrase attribuée à Albert Camus. Une phrase choc que je ne résistais pas à consigner dans mon cahier de texte de collégien. Les journalistes français doivent se persuader qu'on ne réglera pas un si grave problème par des appels inconsidérés à une répression aveugle. Pour les médias d'alors, il ne faisait aucun doute qu'à l'origine de ces émeutes, il y avait la sécheresse et la famine. Aucun journal n'eut l'idée de mener sa propre enquête. C'est ainsi que l'opinion publique accueillit sans état d'âme la version gouvernementale du complot anti-républicain, une thèse qui faisait fi des faits établis, même partiellement, par le rapport du général Thubert, qui n'a plus de secret pour vous, je pense. La mission du même nom, rappelée trop tôt à Paris par le général de Gaulle, n'aura pas l'occasion d'entendre Marcel Régy, auteur d'une scrupuleuse enquête menée à chaud sur la répression aveugle qui emporta, avec des milliers de Guelmois, sa sœur et deux de ses frères. Vous pouvez lire ça sur Les massacres de Guelma, édition de La Découverte, c'est paru en 2006. En 2006, où un officier de l'armée française que j'ai rencontré en expo m'a tout raconté sur cet IF, où il était le 8 mai 45. Et ça, c'est un des souvenirs les plus bouleversants, les plus effarants de toute ma vie militante. Mahmoud Marcel Régy, né en 1905 à Guelma, était un Français d'origine musulmane, converti au catholicisme. Ancien prof de lettres à Tunis, ami de la revue Esprit, il fut un proche de Jean Amrouche à qui il confiera son manuscrit sur la furie des milices coloniales. L'homme était peu suspect de nationalisme et croyait sincèrement aux vertus de l'assimilation, avant de rejoindre le PSU. « Si ma famille a failli être anéantie, écrit-il, c'est parce qu'elle représentait une des bonnes et heureuses réussites de la véritable colonisation. » La vérité qu'il allait découvrir le fera déchanter. Les événements de Guelma ont signé la mort de l'assimilation, dont nous sommes un dernier témoignage, et ont signifié à la colonisation qu'elle était déchue de toute autorité morale pour se maintenir autrement que par la force. Son enquête, d'une minutie impressionnante, restera durant 60 ans au fond d'un tiroir avant d'être exhumée en 2006 par Pierre Amrouche, le fils de Jean. L'enquête confirme qu'à l'origine des massacres fut cette marche pacifique qui se déroula le jour même des célébrations de la victoire sur le nazisme. Il était 18 heures quand le cortège s'ébranla. Partis de la ville haute, les manifestants se dirigeaient vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes de fleurs. Ils arboraient les drapeaux des Alliés, de la France, de l'Algérie autonome, et des pancartes. Vive la démocratie, vive l'Algérie, libérez Messali, vive la charte de l'Atlantique, que vous connaissez bien. Abat le colonialisme. C'est cette manifestation qui sera réprimée dans le sang par les milices d'ordre et les hommes du sous-préfet Hatchari, un ancien SFIO, passé RPF avant de faire partie des créateurs de l'OAS. Ces slogans n'apparaîtront dans aucun compte-rendu de presse et seront ignorés par la classe politique, à gauche comme à droite. On insistera plutôt sur la présence d'agitateurs arabes. Libération 12 mai. De milices vichysoises. L'Humanité 16 mai. Alors que le Parisien libéré du 17 mai entre un article de Vercors, après la victoire, le combat contre soi-même, et un entrefilet « Hitler n'est pas mort », pense Churchill, stigmatisera l'appui d'éléments anti-républicains et de certaines influences étrangères. Le 15 mai, sous le titre « Les troubles d'Algérie », la Croix évoque des difficultés de ravitaillement chez les tribus berbères, frustes et misérables. Le même article, non signé, et sans référence, ni d'agence, ni de correspondance particulière, se retrouvera le soir même dans Le Monde, sous le titre « Les émeutes sanglantes de Sétif », avec un curieux changement d'adjectif. Les tribus frustes et misérables de la Croix deviendront, dans le journal de Boeuf-Méry, des tribus incultes et misérables. S'agissait-il d'une dépêche du service de presse gouvernemental ou d'une pige doublonnée? La question posée aux deux rédactions en avril 1995 restera sans réponse. Le malaise français qui fit la une du Monde le 18 mai était annoncé dès le 12 mai par Libération. Un malaise qui n'a cessé de se développer depuis plusieurs mois. Il durera en fait plusieurs décennies, des décennies de chape de plomb. Ce n'est qu'à partir des années 1990, autrement dit, à partir de cette guerre civile, que journalistes et intellectuels parisiens se sont empressés de baptiser, comme à dessein, la seconde guerre d'Algérie, que les médias français commenceront à s'intéresser à la question. En 1995, le cinquantenaire de cet événement à double connotation, avec battage médiatique concurrentiel des deux côtés de la Méditerranée, força des journalistes à sortir de leur discrétion. Et c'est ainsi que les médias ouvrirent le dossier, appelant à la rescousse historiens et universitaires en charge de pages obscures de l'histoire de la France coloniale. Le souvenir de ces massacres, qui selon les sources firent entre 10 000 et 25 000 victimes, 45 000 selon la thèse du FLN généralement admise aujourd'hui, et 45 000 c'est bien le chiffre que m'avait indiqué cet officier en 2006. Le souvenir de ces massacres avait certes de quoi troubler durablement les consciences. Pour la simple raison que notre 8 mai 45 a le tort d'avoir eu lieu un 8 mai 45, le jour même où la France et les Alliés fêtaient leur victoire sur la barbarie nazie. Or, que nous disent les témoins de Marcel Régui ? Que du soir au matin, à l'annonce de la visite du ministre de l'Intérieur Adrien Tixier, on empilait dans le four à chaud, le four crématoire des minoteries La Vie à Héliopolis près de Guelma, on empilait les corps des fusillés. Pendant 10 jours, on brûla sans discontinuer. L'odeur à la ronde était insupportable. Il suffit d'interroger les habitants de l'endroit. C'est pour cette raison que nous n'avons jamais pu retrouver les corps de ma sœur et de mon frère cadet. Marcel Régui est décédé en 1996 et se voyait comme le dernier témoin de l'assimilation. Au moins n'aura-t-il pas eu à souffrir de la loi du 23 février 2005 et du rôle positif de la colonisation qu'elle affirmait. Lui pour qui l'autre 8 mai 45 avait définitivement déchu la France coloniale de toute autorité morale. Et un des seuls bons souvenirs que me laissera Chirac, c'est qu'il a aboli cette loi inique. Je ne sais plus si j'ai évoqué tout à l'heure les mots de l'ambassadeur de France à Alger en 2005. Alors je vais vous lire des extraits assez larges du discours que cet ambassadeur a prononcé à l'ouverture de l'université de Sétif le 27 février 2005. Donc, Hubert Collin de Verdière, ambassadeur de France en Algérie, à l'issue de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'université de Clermont-Ferrand et l'université Ferhat Abbas de Sétif. Monsieur le Vali, monsieur le recteur, monsieur le président, je salue ici dans cet amphithéâtre de l'université Ferhat Abbas de Sétif la mémoire d'un homme d'État qui incarnait avec une grande dignité la rigueur intellectuelle et si nécessaire dans notre monde compliqué, ainsi que l'exigence de justice et de liberté de son peuple. Il était né et a longtemps vécu à Sétif. Aussi me dois-je d'évoquer également une tragédie qui a particulièrement endeuillé votre région. Je veux parler des massacres du 8 mai 1945. Une tragédie inexcusable. Fallait-il, hélas, qu'il y ait, sur cette terre, un abîme d'incompréhension entre les communautés pour que se produise cet enchaînement d'un climat de peur, de manifestation et de leur répression, d'assassinat et de massacre. Le 8 mai 1945 devait être l'occasion de célébrer l'issue tant attendue d'une guerre mondiale pendant laquelle tant des vôtres avaient donné leur vie pour notre liberté, cette liberté qui devait être celle de tous les Algériens. Ce fut hélas un drame. Celui-ci a marqué profondément, nous le savons bien, les Algériens, qui, dès cette époque, rêvaient de liberté. Ferhat Abbas était de cela. Le jeune Kateb Yassine en était aussi. Cela conduit à m'interroger sur la manière dont se construisent les mémoires dans nos pays et entre nos pays. Des mémoires longtemps à vif, cicatrices exacerbées par trop d'années de guerre, reposant notamment sur des récits personnels, récits d'identité, récits de souffrance, récits d'exil. On parle souvent, entre la France et l'Algérie, d'une mémoire commune, liée à 1000 faits quotidiens, tissés entre les communautés musulmanes, juives et chrétiennes pendant la période coloniale. Mémoire commune, certes, de voisinage et parfois d'œuvres collectives, mais aussi mémoire non commune, chargée de ressentiment, d'incompréhension, d'hostilité. Il n'y a jamais unicité des mémoires ni d'explication catégorique ou définitive des grands événements historiques, comme il ne peut y avoir concurrence des victimes ni négation des malheurs, quel que soit ceci. Les jeunes générations d'Algérie et de France, la vôtre en l'occurrence, n'ont aucune responsabilité dans les affrontements que nous avons connus. Cela ne doit pas conduire à l'oubli ou à la négation de l'histoire. Mieux vaut se charger lucidement du poids, des bruits et des fureurs, des violences, des événements et des acteurs de cette histoire, en évitant si possible les certitudes mal étayées, voire les jugements réciproques. Cette charge est lourde et le travail à mener considérable. C'est là, me semble-t-il, que se situe notre et votre responsabilité. celle qui s'appuie sur les exigences du savoir pour tenter d'ouvrir avec méthode les chantiers d'un travail historique, comme le font déjà certaines ou certains d'entre vous. Et cela, comme l'a écrit l'historien Benjamin Stora, pour forger des valeurs d'égalité sur les ruines du mépris et de la haine. Certains pensent qu'il faut oublier le passé pour qu'il n'enterre pas le présent. Je ne partage pas cet avis, même si nous ne devons pas non plus nous enfermer dans l'histoire. C'est la connaissance lucide du passé et des mémoires diverses, complétée par la vision d'un avenir différent, qui conduit à la tolérance, à la construction de l'espace démocratique et aux valeurs universelles. Dans l'un de ses écrits, le philosophe Paul Ricoeur se disait troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs. Et Paul Ricoeur de s'interroger sur le concept de juste mémoire qu'il envisageait dans sa triple dimension de souci d'autrui, de sens de la dette et de respect dû aux victimes. Monsieur le Wali, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président, cette assemblée d'étudiants et d'enseignants de l'Université de Sétif m'imposait d'exprimer du fond du cœur les réflexions que l'on peut retenir ici de l'histoire et les fortes convictions que les Français en tirent aujourd'hui sur la nécessité d'un rapprochement sincère avec l'Algérie. C'est tout le sens des efforts engagés depuis l'an 2000 au plus haut niveau des deux États qui doivent conduire à une coopération rénovée, à un partenariat d'exception, à l'amitié des Algériens et des Français. Dans le domaine qui est le vôtre, la formation des élites de ce pays, nous sommes résolus à joindre nos efforts à ceux que vous déployez et nous nous enrichirons mutuellement de ce que nous ferons ensemble.